Chapitre 35. Jonas suit la BMW gris-argentée qui l'a conduit jusqu'ici dans les profondeurs du parking de Katharina Berget et se gare au dernier niveau face à une paroi rugueuse. Ils ont passé les immenses portes coulissantes, loin en dessous du seuil d'onde de choc de l'abri anti-atomique. Il avait entendu des rumeurs au sujet d'un lieu de détention secret de la CEPO, mais il ne savait pas que c'était là. L'homme est descendu de sa voiture et l'attend devant une porte anti-déflagration bleue. Il glisse sa carte d'identification dans un lecteur et pianote un long code sur le clavier. L'homme précède Jonas dans le sas et, une fois la porte du parking refermée, il passe sa carte dans un autre lecteur, tape un autre code et ils sont admis dans le centre de contrôle. Jonas tend au garde sa carte d'identité par une ouverture dans le verre blindé. Il est enregistré, puis ses iris et ses empreintes digitales sont soumis au relevé biométrique. Il place sa veste, son pistolet et ses chaussures sur le tapis roulant, passe le scanner corporel, franchit l'autre sas et salue l'agent de la CEPO, une femme dont les cheveux châtains sombres sont noués en une épaisse tresse sur l'épaule. « Je sais qui tu es », dit-elle en rougissant légèrement. Elle lui rend son pistolet et l'observe pendant qu'il remet le holster d'épaule, puis elle lui tend sa veste. « Merci. Tu es beaucoup plus jeune que ce que je croyais », ajoute-t-elle, et le rouge de ses joues gagne son cou. « Toi aussi », sourit-il, et il remet ses chaussures. « Il ne faut pas jouer avec les sentiments des filles », le prévient-elle. Ils se mettent en route. En marchant, elle explique qu'ils ont déplacé Sophia Stephenson des anciens bassins à glace vers une pièce d'isolement dans la salle des machines. Jonas a lu et comparé tous les interrogatoires qu'ils ont menés avec Sophia. Son témoignage est cohérent. Les quelques divergences peuvent s'expliquer par la peur, par sa volonté d'être conforme aux attentes et de dire ce que l'enquêteur veut entendre. L'interrogatoire réalisé par Saga Bauer est sans hésitation le plus fructueux. Il est même exceptionnel vu le contexte. En mettant l'accent sur les détails, elle a guidé le témoin jusqu'au souvenir de la brève conversation qui faisait allusion à Rajan. Sans cet interrogatoire, leur dossier serait totalement vide. Mais si la mise à mort a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on suppose, comme le pense Jonas, cela veut dire que le témoin a passé sous silence certaines séquences. Le tueur a tiré deux coups. Il s'est déplacé avec rapidité et précision, s'est précipité sur le ministre, l'a agrippé par les cheveux, l'a maintenu à genoux et a plaqué le pistolet contre son œil. Il a traité sa victime comme un ennemi, songe Jonas. Si on fait abstraction du laps de temps manquant, l'attentat ressemble plus à un combat qu'à une exécution. Sophia Stephenson avait glissé sur le sol et s'était cogné la tête. Elle était restée allongée et avait entendu la brève conversation qui mentionnait Rajan avant que le ministre des Affaires étrangères soit tué d'une balle dans l'œil. « Je réfléchis », dit Jonas sans que l'agent ait demandé quoi que ce soit. « Tu n'es pas obligé de te justifier », réplique-t-elle en s'arrêtant devant une porte métallique. Elle frappe, déverrouille et annonce à Sophia qu'elle a de la visite, puis elle fait entrer Jonas et referme la porte à clé derrière lui. Assise dans un canapé bleu pigeon, Sophia regarde un épisode de Sherlock. Le poste de télévision est branché uniquement sur un lecteur de DVD. Des piles de coffrets de films sont posées sur la table devant elle, à côté d'une grande bouteille de Coca-Cola. Son visage pâle n'est pas maquillé. Elle ressemble à un enfant avec son corps fluet et ses cheveux châtain clair coiffés en une simple queue de cheval. Elle porte un pantalon de jogging gris et un t-shirt blanc avec un chaton scintillant imprimé sur le devant. Sa main est bandée et des hématomes gris sont visibles autour de ses poignets. Jonas se dit que si elle n'a pas encore accepté la situation dans laquelle elle se trouve, elle a au moins compris qu'il n'allait ni la tuer ni la relâcher avant longtemps. Et elle doit redouter en permanence que la torture reprenne. « Je m'appelle Jonas Lina. » « Je suis un ancien inspecteur de police et j'ai lu les interrogatoires. Tout me dit que vous êtes totalement innocente et je comprends que vous ayez peur. vu la manière dont on vous a traité ici.
Oui,
chuchote-t-elle, et elle éteint le poste de télévision. Il lui laisse un peu de temps avant de s'asseoir à côté d'elle. Il a conscience que des mouvements brusques et des bruits forts peuvent provoquer une angoisse post-traumatique qui la ferait se replier sur elle-même. Il l'a vue trembler quand l'agent a refermé la porte. Le bruit métallique peut effectivement rappeler ce que Sophia a entendu dans la cuisine du ministre, le recul d'une culasse et l'éjection d'une douille.
« Je ne suis pas habilité à vous libérer, » explique-t-il franchement, « mais vous allez m'aider quand même. Vous allez vous efforcer de vous souvenir de ce que je vous demande. »
Il sent qu'elle tente de décrypter ses intentions, perçoit sa volonté de survivre malgré son abattement. Avec des gestes lents, il sort du dossier les deux portraits robots réalisés d'après sa description du tueur. Sur l'un des deux, la cagoule recouvre le visage du meurtrier de sorte que seuls les yeux et la bouche sont visibles. Sur l'autre version, on a tenté de reconstituer le visage sans masque, mais faute de signalement concret, le visage semble dissimulé par une cagoule virtuelle. Les traits ne sont pas marquants. Le regard est peut-être étonnamment calme, les mâchoires assez larges, le nez plus prononcé, la bouche presque blanche et le menton petit. Il n'a ni barbe ni moustache sur l'image de synthèse, mais en se basant sur la couleur des sourcils, on lui a mis des cheveux d'un blond cendré passe-partout.
Ils essaient avec un nez plus long et je leur dis « je ne sais pas », explique Sophia. Ils essaient plus court et je leur dis « peut-être, je ne sais pas ». Ils essaient plus étroit et je leur dis « je ne sais pas », plus large et je leur dis « peut-être ». Et pour finir, tout le monde en a assez et on se retrouve avec ça. Un pseudo-résultat.
« Ça m'a l'air bien », dit Juna.
« Si je ne suis pas très sûr de moi, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas arrêté de chercher à tester ma mémoire. »
À un moment, ils en ont fait un noir, comme s'il était d'origine africaine, alors que je n'avais pas du tout dit ça. C'était sans doute juste pour essayer d'obtenir autre chose, comme la couleur des yeux et des sourcils.
Ils savent comment fonctionne le souvenir des visages, approuve Juna. Après, ils lui ont mis des cheveux longs avec un tas de mèches le long des joues, dit-elle en fronçant les sourcils. Parce que j'ai l'impression d'avoir vu ça. Mais pourtant je savais qu'il avait eu la cagoule tout le temps. Alors, ça ne collait pas, je n'ai pas pu voir ses cheveux.
Qu'est-ce que vous avez vu dans ce cas ? Demande-t-il calmement.
Comment ?
Si ce n'était pas ses cheveux.
Je ne sais pas, j'étais allongé par terre. Il y avait quelque chose qui pendait le long de ses joues, comme des bandes de tissu.
Mais vous ne pensez pas que c'était des cheveux ?
Non, c'était plus comme du tissu épais, peut-être du cuir.
C'était des bandes de quelle longueur ?
Elles arrivaient là, répond-elle en montrant son épaule de la main.
Vous pouvez me les dessiner ? Elle prend le portrait du tueur masqué et dessine d'une main tremblante ce qu'elle a vu de part et d'autre de sa tête. D'abord, ça ressemble à des grandes plumes, des rémiges, puis à des cheveux emmêlés, avant que la pointe du crayon fasse des trous dans le papier.
« Non, je ne sais pas, » tranche-t-elle, et elle repousse le document.
« Est-ce que le ministre des Affaires étrangères a parlé d'un homme à deux visages ?»«
Hein ?»«
On peut l'interpréter de façon symbolique, » dit Juna en regardant l'image.
« Dans ce cas, on a tous deux visages, non ?»